chapitre 36. Romy poussa la porte de l'espace média. René dans son sillage. Elle l'avait emmené pour lui dégourdir les pattes. Marie qui était assis au bureau, plongé dans un rapport. Il leva à peine les yeux pour voir qui entrait et, constatant que c'était elle, ouvrit un tiroir sans quitter la feuille qui la notait. La veille, Romy n'avait pas laissé le diplomate repartir sans s'expliquer. Elle avait raconté qu'un jour, en quittant son rencard, elle avait surpris quelqu'un qui cachait un message dans le disjoncteur. Elle avait forcé Marie à venir constater que le cylindre était encore présent, qu'elle ne rêvait pas. Il y avait un complot. Ce n'était pas juste dans sa tête. Oui, peut-être qu'elle avait été trop loin avec la malle remplie de tofu, ou peut-être que quelqu'un s'était rendu compte de sa surveillance et il lui avait joué un tour. Mais ça ne changeait rien au fait que deux personnes à bord tramaient quelque chose, et que ça ne pouvait pas juste être pour du trafic de tofu. Marie déposa sur la table le cylindre noir que Romy connaissait bien. Intercepté ce matin par un garde que j'avais spécialement mandaté en sentinelle. Romy l'ouvrit et déplia le mot. Tu me manques, besoin de te voir, hangar 3, midi. Je fais déployer toutes les forces navales pour sécuriser la zone ? Demanda Marie sèchement. Romy bafouillait. Elle ne trouvait pas quoi répondre. Par chance, nous allons nous épargner une troisième guerre mondiale, ajouta Marik. J'ai envoyé le garde sur place à midi et il a vu un homme repartir précipitamment. De toute évidence, nous avons gâché un rendez-vous galant. Mais pourquoi toutes ces précautions? Des messages dans un boîtier, c'est un peu excessif pour une romance, non? Pourquoi les couples se trompent? Pourquoi les homosexuels se cachent? Pourquoi les hommes et les femmes se mentent inutilement? Pourquoi? Le monde est mal fichu, Romy, voilà. Ça n'en fait pas pour autant un nid d'espions, même si je t'accorde que sur cette plateforme, la tentation de le penser est forte. Romy se sentait nulle. Nulle d'y avoir tant cru. Mais aussi d'être incapable de défendre son instinct. Elle, qui intellectualisait tout plutôt que de privilégier le ressenti, se perdait dans ce qu'elle devait penser, dans la légitimité du cheminement d'où découlait ce fiasco. Sans la regarder, Marie clasha sévèrement. « Maintenant, retourne nourrir nos réseaux. Plus les jeunes passeront de temps sur leurs écrans, moins ils seront dans la rue à manifester ou à se poser des questions. » Le mépris pour ce qu'elle estimait être sa génération glaça Romy, déjà passablement retournée. Elle explosa. « Si c'est ça votre vision de mon travail, tenez, reprenez votre portable de merde et faites-la votre com' d'hypocrite !» Et elle lança son téléphone sur le bureau. Le chien qui s'était couché à ses pieds sursauta. Romy était énervée. Mais elle était également tenace, pas du genre à cracher sa morgue et partir pour éviter l'esclandre. Elle toisait Marik, prête à en découdre oralement. Elle avait les arguments. Celui-ci ôta ses lunettes de lecture et bascula en arrière dans son siège pour la fixer en retour. Il restait parfaitement calme. Il dégaina le premier, d'un ton extrêmement posé. Tu te rappelles ce que je t'avais raconté sur nos sociétés dont le modèle économique repose sur la nécessité de toujours croître si on veut réussir à rembourser nos colossales dettes? Eh bien, on va avoir un énorme problème très bientôt, car la démographie est catastrophique. La première conséquence, ça va être l'effondrement de la production, et donc de la croissance. Nos créanciers, qui ont absolument besoin de récupérer leur argent, ou au moins quelque chose pour tenir leur propre économie, vont venir taper à la porte. Et si on ne peut rien leur donner, ils prendront la seule chose qui reste, notre pays, pour en faire une succursale de leur propre production, mais à bas coût. Autrement dit, ils nous exploiteront de force pour eux aussi survivre. Et comme notre économie se sera effondrée, nous n'aurons plus les moyens militaires de nous défendre. Romy n'était pas d'humeur à subir un cours magistral. Cependant, la voix constante et hypnotique du conseiller présidentiel, ainsi que son regard implacable, la clouait sur place. Cela dit, on se consolera vite. La démographie en chute libre concerne absolument tout le monde, annonça Marik. Nos pays ne veulent plus faire de gosses, ou n'y arrivent plus, et ceux qui le voudraient sont constamment ravagés par des conditions météo effroyables ou des épidémies. L'OMS parle de démographie qui met en péril l'humanité. Tu es au courant, Romy ? Celle-ci prit sur elle pour ne pas quitter la pièce et émit un vague signe. Sur 10 milliards de personnes, beaucoup ne se mettent plus en couple, Elles ont peur du sexe opposé, ou préfèrent vivre seules, sans contrainte. Et il y a ceux qui n'ont pas choisi d'être célibataires, ceux qui ne veulent plus être de leur sexe, et ainsi de suite. À croire qu'à force de tout déconstruire dans nos rapports, plus personne n'a le mode d'emploi de ce que nous sommes. Les hommes ne comprennent plus les femmes, et vice-versa. Romy secouait la tête. Elle avait envie de lui dire qu'il était un mâle alpha archaïque et que c'était lui qui ne comprenait plus rien. Mais se retint là encore. Il fallait le laisser dérouler son speech pour pouvoir en placer une. Il dut saisir son dégoût, car il précisa. « Libre à toi de ne pas partager mon sentiment. Reste les faits. Sur ceux qui se mettent en couple, la plupart n'ont pas d'enfants par choix. Ils ne veulent plus mettre des gamins au monde dans ce contexte. Ils ont perdu l'espoir. La foi. » Et ceux qui en veulent galèrent comme jamais, la faute à une hygiène de vie aberrante, malbouffe, saloperie toxique dans tout ce qu'on ingère, absence d'activité sportive, obésité, etc. Romy connaissait tout ça. Les médias le rabâchaient à tour de rôle. C'était l'obsession du moment, comme s'il en fallait toujours une pour faire peur. Imperturbable, Marik déroulait son exposé. Bref, calcul très simple. Sur 10 milliards d'habitants, si seulement 2 milliards font des enfants, à raison d'une moyenne d'un seul enfant par couple, et oui, quand je dis qu'on n'y arrive plus, ça fait 1 milliard d'enfants sur la prochaine génération. Si la même proportion est appliquée à cette génération, ils ne feront que 100 millions d'enfants à leur tour, qui feront 10 millions d'enfants qui en feront un. Puis 100 000, 10 000, et à ce niveau l'humanité sera déjà perdue, trop faible pour lutter contre son écosystème qui l'absorbera, parce que nous ne sommes plus adaptés à la survie dans ces conditions. Pas avec une fertilité si basse. En 6 générations, c'est fini. Soit dans à peine 1 siècle, l'humain sera une espèce en voie d'extinction inéluctable. Est-ce qu'il se rendait compte qu'il lui disait ça à elle? Avait-il si bien lu le dossier qui la concernait? Celui que la DGSI avait fourni à l'Élysée? Savait-il par quoi elle était passée dans son existence pour parvenir à être un minimum heureuse, à se sentir vraie? Le serpent lisait dans son esprit car il ajouta, en trifouillant ses lunettes, « Je sais que tu incarnes une partie de tout ce que je te raconte là. Et je sais que tu aurais préféré que ta vie soit plus simple dès le début. C'est pour ça que je suis franc avec toi. C'est pour ça aussi que je suis convaincu depuis le premier jour que tu es la bonne personne pour faire ce job, même si on t'a imposé à nous. Au-delà de ta maîtrise ou non des réseaux, tu incarnes cette génération. Ce mal-être. Quand bien même tu as résolu une partie de ton problème, je sais que tu n'oublies pas, Romy. C'est dans ta chair. Ce garçon n'est... Stop ! Je ne veux plus entendre ce nom ! » Marik acquiesça, et il afficha même un début d'empathie pour avoir risqué de la blesser. « Nous devons donner de l'espoir, » dit-il après un blanc. « Les gens n'en ont plus. Tous s'affadissent. C'est ça ma mission. Et c'est la tienne auprès des jeunes. Qu'ils croient au moins en ce que nous faisons ici. Qu'ils croient en se faire. Qu'il se raccroche à un avenir meilleur. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle est, de ce qu'il y a dedans. Mais déjà, chaque journée à croire est une journée meilleure que la précédente. Notre monde s'est assombri, Romy. Sphère est arrivée, et nous avons une chance de redonner un peu de couleur à notre planète grâce à elle. » La colère était retombée. Elle entendait son discours. Si la démonstration n'était pas du tout de son goût, Romy partageait sa conclusion. Vous vous rendez compte que vous confiez cette tâche à une femme qui ne pourra jamais avoir d'enfant par les voies naturelles? Je vois l'émotion que ça suscite chez toi. Je la devine. Et je connais ton intelligence. C'est le cocktail parfait pour être celle qui fera au mieux ce job. Je sais. C'est cruel. Je reste un politicien. Romy soupira. Marik insista. Chacun de tes messages a un impact phénoménal. Tu réalises le pouvoir de tes mots, de ce monde virtuel sur le nôtre. Regarde-toi. Ici, tu es une femme, certes admirable, mais en plein doute, les larmes aux yeux, qui était prête il y a quelques secondes encore à me passer par la fenêtre. Et sur les réseaux, qui es-tu? Hashtag Romy from the rig. Le phénomène qui fait rêver les jeunes. Si tes messages prolongent la lumière de sphère, repoussent les ténèbres qui s'abattent lentement sur notre civilisation, s'ils donnent de la joie, de l'espoir, qu'ils empêchent la panique ou de sombrer dans le chaos. Te rends-tu compte de leur importance? Marik et Romy ne parvenaient plus à se quitter du regard. Il finit par lui tendre son téléphone. et elle le prit.